Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal parlé de Radio Okapi en ce mardi 24 juin 2025 à la une ce jour. Le corridor de l'Obito, bien plus qu'un port, un pont économique entre l'Atlantique et l'intérieur du continent. Au sommet États-Unis-Afrique, Jean-Pierre Bemba présente cette infrastructure comme un outil géostratégique majeur pour renforcer les liens économiques et politiques entre les nations africaines et leurs partenaires internationaux. Sud Kivu, Moussigiko retrouve un calme précaire après les violents affrontements entre Wazalendo et M23. Le résistant Wazalendo a lancé une offensive pour déloger les rebelles du M23 de cette partie du territoire de Kabaré. Depuis une semaine, les combats se multiplient, plongeant la région dans une instabilité persistante. Victime des conflits au Kassai, le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit Fonarev passe à l'identification. Depuis Chikapa, une campagne est lancée pour recenser les victimes de violences depuis 1993. Dans ce journal, entretien exclusif avec Miran Moulumba, coordonnateur régional du Fonarev. C'est tout pour les titres. Premier sujet de ce journal, le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Depuis Luanda, en Angola, le vice-premier ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a mis en avant l'importance stratégique du corridor de l'Obito. Selon lui, cette infrastructure joue un rôle clé dans le développement régional et l'intégration économique entre la RDC, la Zambie et l'Angola. Mandaté par le président Félix Tshisekedi pour représenter la RDC, lors d'un panel consacré à ce projet d'intégration économique, Jean-Pierre Bemba a souligné que ces corridors constituent un levier stratégique pour le désenclavement, la stabilité et le développement partagé entre la RDC, la Zambie et l'Angola, reliant l'intérieur du continent africain à l'océan Atlantique via le port de l'Obito. Cette infrastructure est perçue comme un catalyseur pour stimuler les échanges commerciaux, faciliter la mobilité et renforcer la coopération régionale. Un reportage signé grâce à Amzati.
Soutenu par des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales, ce projet va au-delà d'un simple axe logistique. Il devient un levier stratégique pour la stabilité, le désenclavement et le développement partagé, particulièrement crucial dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires persistantes et des tentatives de déstabilisation externe, affirme Jean-Pierre Bemba. Pour lui, ce projet est considéré comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la RDC. Le corridor de l'Obito est un atout majeur pour la RDC car il offre au pays un accès direct et vital à l'océan Atlantique via le port de l'Obito en Angola, facilitant l'exportation de ses précieuses ressources. Ce corridor est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% des revenus d'exportation de la RDC, précise Jean-Pierre Bemba. Interrogé sur les raisons qui poussent la RDC à s'engager pleinement dans ce projet, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba rassure que le corridor de l'Obito représente une alternative logistique fiable et structurante. Il permet, poursuit-il, de réduire considérablement le temps de transit des minerais vers les ports de l'Atlantique.
Transparence fiscale, la République démocratique du Congo vient de franchir un cap important dans sa lutte pour la transparence et la bonne gouvernance. Kinshasa a accueilli hier lundi une délégation de haut niveau du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à de fins fiscales. Cette visite marque un tournant stratégique dans la modernisation de la gestion des finances publiques et la lutte contre le flux financier illicite qui continue de freiner le développement du pays. Au centre des échanges, la création imminente d'une unité nationale dédiée à l'échange international de renseignements fiscaux, un outil clé pour bâtir une fiscalité plus équitable et optimiser les recettes de l'État. Michel Kifindangoy pour les détails.
Au cours de cette rencontre avec la délégation de haut niveau du Fonds mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales, le ministre des Finances réaffirme l'engagement de la RDC à consolider la bonne gouvernance fiscale et la lutte contre les flux financiers illicites. Doudou Mfouamba salue la visite hautement stratégique d'un partenariat solide vers un système fiscal plus équitable et transparent. Conformément à la vision du chef de l'État, le ministre Mfouamba annonce la création prochaine d'une unité opérationnelle d'échange international des renseignements fiscaux. De son côté, la chef du secrétariat du Forum mondial salue le progrès de la RDC depuis son adhésion en décembre 2023. Zaïda Manata souligne le potentiel de la transparence fiscale pour générer des recettes supplémentaires. Elle rappelle que la RDC fera l'objet d'une évaluation par les pairs fin 2026 et que toutes les actions entreprises d'ici là seront déterminantes. La délégation du Forum mondial poursuit ses rencontres stratégiques à Kinshasa jusqu'à ce mercredi pour expliquer les enjeux et bénéfices de cette coopération internationale.
Parlons sécurité à présent au sud Kivu. Le calme est peu à peu revenu ce mardi matin aux alentours de 9h dans la localité de Musigiko située dans le groupement des Chirunga, territoire de Kabare. Cela après des violents affrontements survenus à l'aube. Selon des sources locales, les combats ont opposé les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 provoquant une vive panique dans plusieurs villages environnants. La psychose aussi rapidement étendue touchant non seulement les territoires de Kabare mais aussi certaines zones de la commune voisine de Bagira. Aucune communication officielle n'a été faite sur le bilan des affrontements, mais des mouvements de population ont été signalés dans la région. Le point avec Ronelly Ntimbonera.
C'est dès l'aurore de ce mardi que les habitants de Musigiko et d'une partie du quartier D à Bagira, à Bukavu, ont été réveillés par des crépitements des balles et des détonations d'armes lourdes échangées entre le belligérant. D'après des sources de la société civile, ce sont les Wazalendo déterminés à chasser les rebelles du M23 de la zone qui auraient lancé les premières attaques depuis les territoires des Kabare. En réponse, les éléments du M23 ont riposté à cet assaut. Pendant quelques heures, cette situation a provoqué une psychose, paralysant les activités prévues dans la matinée. Les détonations entendus dans plusieurs quartiers des Bagira ont également perturbé les activités scolaires, spécialement vers quartier D. Après une résistance initiale, des témoins rapportent que renforts des rebelles du M23 déployés en appui aux troupes sur le terrain auraient permis de contenir l'attaque des Wazalendo. Pour rappel, depuis la semaine dernière, des accrochages sont régulièrement signalés dans les territoires des Kabare entre une coalition de groupes Wazalendo et les rebelles du M23. Les Wazalendo dénoncent notamment l'occupation de la maison royale du Bushi par les éléments du M23.
Dans la même veine, Nord Kivu, territoire de Rutshuru, des violents affrontements ont de nouveau éclaté ce mardi dans la chefferie de Bouito. Selon plusieurs sources locales, les combats opposent les rebelles du M23 au groupe d'autodéfense VDP Wazalendo, notamment dans le village de Bifura et Kanyati, situé dans le groupement de Bukombo. La situation reste tendue sur le terrain alors que les populations civiles continuent de fuir les zones de combat. Plus de précisions dans ce reportage signé Blaise Oshindani.
Depuis 6 heures locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans cette zone occasionnant un déplacement massif de population. Ses habitants se dirigent vers Machango et d'autres vers Mueso dans les territoires voisins de Masisi, disent nos sources. Depuis plusieurs semaines, des combats opposant les rebelles du M23 au groupe Wazalendo de Dominique Ndaruchie persistent dans cette entité. Ces violents conflits armés touchent également les groupements voisins de Bambo, Tongo et Kiondo dans la même chefferie de Bouito où les rebelles AFC M23 mais aussi les Wazalendo renforcent leur position. Conséquence, des centaines de maisons d'habitation ont déjà été incendiées, des structures de santé touchées par des engins explosifs, des dizaines de civils ont été tués, d'autres blessés, alors que des milliers d'autres sont en déplacement forcé. Cela pendant que l'accès aux champs et à d'autres activités économiques se trouve compromis dans la zone, aggravant la situation alimentaire.
Et pour boucler ce chapitre, retour au sud Kivu, un nouveau drame secoue l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC accusent la coalition RDF-AFC-M23 d'avoir exécuté sans mérément 17 civils dimanche 22 juin aux environs des 18h30 dans le village Munzinzi, territoire de Walungu. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dénonce un acte de barbarie. Selon lui, plusieurs habitations ont été incendiées, plongeant les habitants dans la terreur. Une grande partie de la population s'est réfugiée dans les positions militaires le plus proches pour échapper à la violence. Les victimes auraient été accusées de collaborer avec les FARDC et les groupes d'autodéfense Wazalendo après l'échec d'une récente offensive menée par les rebelles contre les positions de l'armée. L'état-major des FARDC condamne fermement ce qu'il qualifie d'énième pogrom et appelle la population à la vigilance face à la recrudescence de violence dans la région. Nord Kivu, le lac Édouard en péril. Badilika tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la journée nationale du poisson célébrée ce mardi 24 juin en RDC. L'organisation de défense de droits humains Badilika Changement, basée dans le territoire de Rutshuru, alerte sur les menaces croissantes qui pèsent sur le lac Édouard situé au cœur du parc national des Virunga. Selon Badilika, la situation est critique. La pêche illicite pratiquée par des acteurs publics privés et même des groupes rebelles s'intensifient et détruisent progressivement les écosystèmes du lac. Résultat, une chute alarmante de la production et de la productivité halieutique. Le coordonnateur de l'organisation, Patrick Nguka, appelle les autorités congolaises à agir rapidement pour préserver ces plans d'eau partagés avec l'Ouganda, aujourd'hui menacé de disparition. Écoutons sa réaction.
Vous le savez vous-même, plus de 2 millions de personnes dépendent des recettes du lac Édouard. L'organisation Badilika profite pour appeler la conscience de tout le monde, la conscience de nos autorités congolaises, à penser sur l'amélioration des conditions de l'homme pêcheur congolais. Mais aussi, c'est une occasion pour décrire certaines situations pendant cette période où l'activisme des groupes armés rebelles, surtout aujourd'hui la présence du M23 dans cette partie lacustre, qui, d'après notre recherche, perçoit des rations pour permettre aux pêcheurs clandestins de détruire le lac Édouard à travers la pêche illicite, mais aussi cette situation de corruption qui se généralise dans la force navale qui aujourd'hui elle s'est aussi vexée dans la pêche illicite. Nous appelons la justice congolaise en fait d'éradiquer ce phénomène, de punir toutes les personnes impliquées dans la destruction du lac Édouard.
Aucune activité n'a été annoncée pour la célébration de cette 58e journée nationale du poisson dans la zone de Goma et de Rutshuru. Kinshasa, une étude opérationnelle sur les ressources humaines en santé a été officiellement présentée hier lundi lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Rotana dans la commune de Gombe. Ces documents de 235 pages financés par la Banque mondiale visent à renforcer le suivi de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, une politique phare portée par le chef de l'État. Objectif principal de cette étude est de contribuer à une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines dans les secteurs de la santé afin d'améliorer la qualité de soins offerts à la population. Le secrétaire général à la santé, le docteur Sylvain Yuma Ramazani, a souligné l'importance de ce travail au micro de Jean-Marc Matwaki.
Nous sommes conscients que la question des ressources humaines reste une question critique. Et c'est dans ce cadre-là, autant il y a tous les efforts qui sont faits au niveau de la fonction publique avec le vice-premier ministre, mais le ministre de la Santé comme ministre sectoriel nous a instruit pour que nous puissions faire les choses autrement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons contacté nos amis de la Banque mondiale, profitant des ressources qui sont au pays, pour que nous puissions mener une étude analytique opérationnelle pour voir comment ça se passe sur le terrain en termes d'effectifs. Parce qu'on a des listes qui remontent, mais au-delà de l'IS, il y a tout ce qui est répartition géographique. Après ça, il y a aussi la problématique en rapport avec la rémunération. Et aussi toute la question de gestion de carrière jusqu'à la retraite. Comment ça se passe? Et cette étude nous a montré des vraies indications par rapport à ces questions. Et maintenant, la question qui reste, comme vous le savez, mais qu'est-ce qu'on fait des résultats de cette étude, des recommandations formulées? Et c'est là que nous allons continuer à travailler avec l'équipe de la Banque mondiale pour voir comment non seulement profiter des investissements actuels, mais aussi dans les investissements futurs pour bénéficier des ressources et investir de façon vraiment efficiente, efficace sur les ressources humaines.
De son côté, le docteur Michel Mouvoudi, expert santé à la Banque mondiale, estime que cette étude constitue un outil stratégique pour orienter les décisions et mettre en œuvre les recommandations nécessaires à la réussite de la couverture santé universelle. Deuxième journée ce mardi pour la semaine du livre dans la province éducationnelle Kin Plateau ici à Kinshasa. Objectif, susciter le goût de la lecture chez les élèves. Les activités se sont poursuivies à l'école primaire Marie-Madeleine de Kinkolé après une cérémonie d'ouverture tenue lundi à l'école primaire Olive Lembe dans la commune de Lancélé. Cette initiative est portée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'UNICEF COICA ainsi que les éditions Saint-Paul et Afrique Espoir. Une centaine d'élèves y participent activement. Nassia Ntambo était sur place pour l'ouverture. Voici son reportage.
Cette semaine du livre est une opportunité de rappeler que la lecture est la base de tout apprentissage et un pilier de la réussite scolaire. Le directeur provincial de Kinshasa Plateau explique le sens de ces activités. Delphin Konapungu.
Un enfant, pour bien avancer dans ses études, il doit connaître à lire et à écrire. À travers notre projet UNICEF COICA, nous avons les cours de lecture et écriture.
Les enseignants présents saluent cette initiative car elle vient renforcer les efforts d'amélioration de la lecture chez les enfants.
Avec cette journée, nous allons apprendre à nos élèves de consulter les livres.
Les élèves expriment ici leur joie.
On a une joie immense. Comme on a fait la lecture, on nous a donné des cadeaux. On est très heureuse de cette belle journée.
Nicole Luquetto, spécialiste en éducation à l'UNICEF Bureau Ouest, réaffirme l'engagement de ces fonds de l'ONU à appuyer davantage les écoles dans le renforcement des capacités de lecture des élèves.
Nous célébrons la semaine du livre pour promouvoir l'envie de la lecture, mais déjà pendant l'année, nous avons doté les écoles des bibliothèques scolaires.
L'UNICEF a remis à cette occasion des livres aux élèves. La clôture est prévue ce mercredi 25 juin 2025.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont annoncé ce mardi l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu bilatéral entre l'Iran et Israël après 12 jours de conflits marqués par des frappes aériennes et une escalade militaire sans précédent. Israël a confirmé avoir accepté la proposition américaine tout en avertissant qu'il réagira avec force à toute violation de la trêve. Le gouvernement israélien affirme avoir atteint tous les objectifs de la guerre lancée le 13 juin, notamment l'élimination de ces qu'il qualifie de double menace nucléaire et balistique iranienne. Malgré l'annonce, des frappes israéliennes ont été signalées peu après la publication du message du président Donald Trump sur la plateforme Truth Social et Téhéran n'a pas officiellement confirmé l'accord conditionnant toute désescalade à l'arrêt immédiat des attaques israéliennes.
L'invité.
Le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit Fonarev a lancé depuis quelques jours à Tchikapa, dans la province du Kasaï, une vaste opération d'identification des victimes d'exactions dans l'espace Kasaï. Cette initiative qui couvre la période allant de 1993 à nos jours vise à établir une liste consolidée des personnes affectées afin de permettre au gouvernement de leur apporter un accompagnement matériel, financier, judiciaire et médical. Pour en parler, nous recevons Miran Moulumba, coordonnateur régional du Fonarev, qui s'est confié à Blaise Ndongala Mayanda. Suivez cet entretien.
Bonjour, monsieur Miran Moulumba.
Bonjour.
Le Fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles a lancé les processus d'identification des diverses exactions dans l'espace Kassai. En quoi consiste cette opération?
Et cette boussole qui, logiquement, s'est assignée trois objectifs. Le premier objectif qui est celui lié à pouvoir identifier les victimes, mais aussi permettre aux victimes d'avoir accès à la justice pour ceux-là qui ont été fauchés dans leurs droits, mais aussi, enfin, permettre à ces victimes, n'est-ce pas bien entendu, de pouvoir bénéficier des mesures réparatrices, d'une part individuelle, mais aussi de l'autre part collective. C'est-à-dire, le processus d'identification qui a été lancé dans l'espace Grand Kassai ne concerne pas seulement les victimes des atrocités du camp Mounassa. C'est-à-dire, s'il y a eu des événements qui rentrent dans le mandat de Fonarev, dans la fourchette de temps comprise entre 1993 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Fonarev se livre à cet exercice pour devoir identifier toutes ces victimes qui doivent être éligibles pour obtenir des mesures réparatrices collectives, individuelles, demain.
Quels sont les critères d'éligibilité définis dans les cadres de cet enregistrement?
Partant de critères qui sont arrêtés en tant que tels, l'objectif visé, c'est pour avoir une liste unique consolidée de toutes les victimes. Donc ici, le processus va effectivement viser par rapport aux critères arrêtés pour être identifiés ou pour entrer sur la liste unique consolidée. C'est notamment d'abord les victimes qui sont détentrices de décision de justice. C'est-à-dire, il a été fauché dans ce droit et que cette victime, en ce jour, est en possession d'une décision de justice qui lui a été signifiée. Cette victime va faire l'objet de l'identification par les enquêteurs qui ont logiquement été formés durant 7 jours, appelés communément les agents d'identification, pour qui nous avons lancé sur terrain pour devoir se livrer à cet exercice d'identification des victimes. Nous avons aussi les victimes avec une décision exécutoire. Nous avons aussi des victimes avec une décision de justice coulée en force de la chose jugée, c'est-à-dire la décision qui devient inattaquable. Nous avons aussi les victimes de ménage collectif, les victimes de conflits en situation d'urgence dans les hôpitaux. Nous avons aussi les victimes parmi les déplacés de conflits. Nous avons aussi les victimes de massacres, donc les victimes aussi venues des communautés en conflit.
Bénéficiez-vous de l'appui de quelques partenaires nationaux ou internationaux?
Le Fonarev reçoit les dons, les lait de différents partenaires, mais aussi de ses redevances minières de 11% qui permettent au Fonarev de pouvoir mener cette campagne.
Quelle est la prochaine étape après l'opération d'enregistrement?
Il est vrai qu'après cette étape, bien entendu, de l'espace Grand Kassai, nous allons devoir nous livrer aussi dans la province de Sankourou. Nous serons aussi dans le Grand Bandundu, où nous allons effectivement nous livrer à cet exercice. Parce que l'objectif pour la direction générale du Fonarev est que aucune victime reconnue en tant que telle, détentrice, ne reste pas sans pour autant être identifiée pour qu'elle puisse bénéficier des mêmes avantages que ses pairs. Donc voilà pourquoi aujourd'hui,
quel est le sort des victimes ayant déjà quitté l'espace Kassai après avoir subi des atrocités?
Je tiens à vous rappeler qu'aucune victime reconnue en tant que telle ne restera sans pour autant être identifiée. Le Fonarev a lancé le processus pour 11 provinces, c'est-à-dire les provinces jugées comme pilotes en fonction de la gravité de faits perpétrés dans ces dites provinces. Notamment dans l'espace Grand Kassai avec les 3 provinces, nous avons Kisangani, nous avons la partie orientale, etc. Au total, nous avons logiquement 11 provinces. Après cette étape d'identification, il faut rappeler ici que toutes ces victimes qui seront sur la lutte feront l'objet, bien entendu, d'une sentence judiciaire qui sera d'une part rendue au niveau du tribunal de grande instance du lieu de la commission de faits, et après que ces sentences aient été rendues, ces décisions seront versées en PV auprès du ministre de tutelle, qui est le ministre des droits humains, qui va devoir homologuer toutes ces sentences. Les victimes identifiées en tant que telles vont devoir bénéficier maintenant de cartes de victimes, lesquelles cartes, logiquement, va leur permettre à pouvoir entrer en possession de tous leurs avantages, leurs dus par rapport à leur rang et ou par rapport à leur qualité en tant que victime. Le message phare que nous lançons à toutes les victimes, c'est de s'apprêter en ordre de bataille, de disponibiliser, bien entendu, tout ce qu'il y a comme élément de preuve qui justifie effectivement qu'ils ont été fauchés dans leurs droits.
Monsieur Miran Moulumba, Radio Kapi vous dit merci.
Merci.
C'était Miran Moulumba, coordonnateur régional du Fonarev, qui s'exprimait au micro de Blaise Ndongala Mayonda. Il revenait sur l'opération d'identification des victimes de violences sexuelles liées au conflit récemment lancé dans l'espace Kassai. C'est la fin de ce journal. Il a été mis en onde par Jean-Claude Nsiala, présenté par Gisèle Cage, sous la coordination d'Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir accordé votre temps. L'information continue sur Radio Kapi et sur nos plateformes numériques. À très bientôt.